Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. États-Unis tout d'abord, l'actualité américaine continue d'être dominée par l'affaire ukrainienne. Le président Donald Trump a contesté mercredi toute irrégularité après la publication du contenu d'un échange dans lequel il demande à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son rival démocrate Joe Biden qui fait campagne pour l'investiture démocrate comme candidat au présidentiel de 2020. Pas de pression, rien du tout, a martelé le président Trump. Les détails avec Jean-Roger Bion.
De nouveaux développements dans cette affaire sont attendus ce jeudi avec l'audition par le Congrès du directeur par intérim du renseignement national, Joseph McGuire, qui avait d'abord refusé de transmettre aux parlementaires américains le signalement à l'origine du scandale rédigé par un lanceur d'alerte, membre des services de renseignement. Dans la transcription de l'échange téléphonique au cœur des tensions que la Maison-Blanche a fini par publier mercredi, le président Trump évoque avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le nom de Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 et les affaires en Ukraine de son fils Hunter. Cet échange accablant de l'avis de l'opposition met en difficulté M. Trump, désormais menacé par une procédure de destitution explosive. Il est resté sur la défensive et a tenté de balayer les critiques en évoquant une chasse aux sorcières sans fin. « Une destitution pour ça, c'est une blague », a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à New York. Les démocrates soupçonnent le président républicain d'avoir gelé une aide de près de 400 millions de dollars destinée à Kiev pour forcer le président ukrainien à l'aider face à un possible rival démocrate en 2020.
États-Unis toujours, poursuite à New York du débat général à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le programme d'aujourd'hui et les interventions d'hier à la tribune des Nations Unies avec notre correspondante sur place, Dili Diko.
Au programme, le discours du président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi prendra la parole ce jeudi pour son premier discours à la tribune des Nations Unies. Le président congolais, élu en janvier, a déjà donné le ton de son discours puisqu'il s'est dit favorable à ce que la mission onusienne en RDC reste dans le pays, une ouverture qui contraste avec la vision de son prédécesseur. Également au programme d'aujourd'hui, mais cette fois dans l'après-midi, l'intervention du chef d'État camerounais, mais aussi celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Toujours au plan africain, la journée d'hier a été marquée par le discours du président de la République centrafricaine, mais également celui du chef d'État malien, très attendu en raison de la situation sécuritaire dans son pays et dans le Sahel. Dans son allocution, le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis en avant le multilatéralisme, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, en soulignant les défis auxquels le Mali fait face depuis la signature de l'accord de paix en 2015. Faustin Archange Touadéra a quant à lui parlé des progrès modestes mais sûrs dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés en février dernier. Côté international, c'est l'intervention du président iranien Hassan Rouhani qui a retenu l'attention. Il a refusé mercredi toute négociation avec les États-Unis tant que les sanctions contre Téhéran ne seront pas levées.
Au Tchad, de nombreuses personnes sont mortes dans la nuit de lundi à mardi suite à l'effondrement d'une mine d'or non autorisée dans le nord du pays. L'accident s'est produit vers la localité de Kouri Bougoudi, dans une zone livrée à la loi des gangs et aux ors par ailleurs illégaux. Une région tout près de la frontière libyenne dans la province du Tibesti, soumise à l'état d'urgence. Selon les déclarations à l'AFP du ministre tchadien de la Défense et de la Sécurité, Mahamat Abali Salah, la mine s'est effondrée, mais on ne sait pas encore combien de morts l'accident a causé. Le bilan pourrait toutefois être lourd, vu le fait que beaucoup de gens travaillent dans ces mines. Effondrement d'un immeuble en Sierra Leone également. Les services de secours ont fait tout leur possible dans la nuit de mercredi à jeudi pour dégager les personnes ensevelies sous les décombres du bâtiment en construction qui s'est écroulé hier à Bo, deuxième ville du pays, à environ 250 kilomètres au sud de la capitale Freetown. Plusieurs personnes ont été extraites dans un état critique et emmenées à l'hôpital, mais aucun corps sans vie n'a pour l'instant été récupéré, selon un responsable du département des catastrophes joint au téléphone par l'AFP. Les informations initiales des sources proches des opérations de secours ont indiqué que plus de 80 personnes pourraient être coincées dans les décombres du chantier. C'est le nombre d'ouvriers supposés se trouver sur les lieux au moment où le bâtiment de 3 étages s'est écroulé mercredi. Mais le responsable du département des catastrophes a souligné que ce chiffre n'était pas encore confirmé et faisait l'objet de vérifications. Pas d'informations précises non plus sur les causes de l'effondrement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, 6 associations guinéennes internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty, 2 des principales ONG de défense des droits humains dans le monde, ont dénoncé mercredi le fait que pratiquement 10 ans après le massacre dans un stade de Conakry en septembre 2009, qui a fait au moins 157 morts, les familles des victimes attendent toujours justice. Le point avec Michel Joseph.
Le ministre guinéen de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, a assuré que la volonté politique d'organiser ce procès est sans équivoque, mais que le pays est confronté à des difficultés pratiques en passe d'être réglées. L'instruction est clôturée depuis fin 2017, mais la date du procès n'a pas été fixée. Les juges non plus n'ont pas été désignés et certains survivants sont déjà décédés. 10 ans après, les familles des victimes attendent qu'on leur rende justice, soulignent les 6 organisations de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch et Amnesty International. Le 28 septembre 2009, selon une enquête de l'ONU, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, chef de la junte de l'époque.
Politique en Côte d'Ivoire maintenant, les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante CEI, qui devra organiser la présidentielle de 2020 dans le pays, ont été dévoilés mercredi lors du conseil des ministres réceptionnel à Dimbro-Cro, à 250 km au nord d'Abidjan. Aucun membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui refuse cette nouvelle structure, ne figure dans le quota de l'opposition. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue, 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne qui s'est soldée par plus de 3000 morts. Conflit en Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui mène depuis début avril une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, a indiqué qu'il était ouvert au dialogue après avoir rejeté à plusieurs reprises l'appel de l'ONU à reprendre les discussions pour mettre fin aux hostilités. L'homme fort de l'Est libyen s'exprimait peu avant une réunion sur la Libye prévue aujourd'hui à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mercredi à l'ONU, son rival Fayez al-Sarraj a dénoncé de nouveau ce qu'il a appelé les ingérences des pays étrangers en Libye en citant nommément les Émirats arabes unis, l'Égypte et la France. Monsieur Sarraj a aussi qualifié Khalifa Haftar de criminel assoiffé de sang, en rejetant toute possibilité de discuter avec lui. À l'occasion de la réunion sur la Libye ce jeudi à New York, la France et l'Italie espèrent avancer vers une conférence internationale qui pourrait être organisée en Allemagne pour essayer de sortir le conflit libyen de l'impasse. Et pour terminer, en Israël, le président Reuven Rivlin a demandé hier soir au premier ministre sortant Benjamin Netanyahou de tenter de former le prochain gouvernement après des législatives qui ont plongé le pays dans une impasse politique. Les précisions de John Lyndon.
La responsabilité de former le prochain gouvernement sera donnée au premier ministre et leader du Likoud, Benjamin Netanyahou, indique la présidence israélienne. Monsieur Netanyahou, avec ses alliés de droite et des partis religieux, compte pour l'instant 55 sièges sur les 120 du Parlement. Et le centriste Benny Gantz, avec les partis de gauche et les partis arabes, rassemble 54 députés. Aucun n'est parvenu pour l'instant à obtenir la majorité absolue de 61 députés. Choisi pour former le prochain gouvernement, Benjamin Netanyahou a tendu la main hier soir à son rival Benny Gantz, lui demandant de le rejoindre dans un cabinet d'union. offre, immédiatement rejetée par Benny Gantz dans une publication faite sur Facebook. Il serait hors de question pour lui de participer à un gouvernement dirigé par un premier ministre menacé d'inculpation, allusion faite à toutes ces affaires de fraude et malversation qui planent sur la tête de Benjamin Netanyahou et pour lesquelles il doit être entendu par la justice.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.